Bon, Jean-Bernard Leroy à l'appareil. Je vais donc faire mon deuxième et dernier exposé sur la Perse. La Perse ou l'Iran est un pays musulman, mais que l'on peut considérer comme relativement tolérant. Si l'islam y garde jalousement sa primauté, comme en témoigne l'interdiction de la vente d'alcool ou de viande de porc, il n'est pas aussi intransigeant que ne l'est par exemple l'Arabie saoudite. Quatre religions y ont droit au statut de religion du livre, dont le zoroastrisme, qui fait partie du nombre, et elles y sont normalement pratiquées. C'est à l'occasion d'un baptême catholique, celui de notre dernière petite fille, que ma femme et moi avons entrepris ce voyage Il y a trois ou quatre communautés catholiques à Téhéran, plusieurs groupes protestants, une communauté zoroastrienne, un quartier juif et un quartier arménien. Le quartier arménien disparaît est remarquable. Les Arméniens y ont été installés au XVIIe siècle par le roi de l'époque en raison de leur qualité d'artisans, d'orfèvres et de banquiers. De fait, les entrées dans les monuments sont deux à trois fois plus chères que dans le reste de la ville. Deuxièmement, l'islam est sunnite à 90%, mais l'Iran, lui, est chiite dans la même proportion, avec comme conséquence la place du soufisme, obédience d'inspiration mystique, aspirant à une union intime avec Dieu. Le soufisme est plutôt mal vu par les autres musulmans, en particulier par les sunnites qui sont surtout attachés à la foi. En Iran, le soufisme donne naissance à de petites communautés sous la direction d'un supérieur. Elles ne sont pas sans rappeler certaines communautés monastiques. Il y aurait peut-être intérêt à se rapprocher d'elles. Troisièmement, ainsi que nous l'a fait remarquer le prêtre qui a baptisé notre petite fille, prêtre dont l'apostolat d'une vingtaine d'années s'est exclusivement exercé en pays musulman, le concept d'amour entre Dieu et les hommes est totalement absent de l'islam. Selon les termes même d'une musulmane à laquelle j'ai posé la question, le mot miséricordieux, qui figure dans la profession de foi de leur religion, signifie que Dieu distribue ses dons à profusion et à tous sans distinction. Mais il n'y a nulle nuance d'amour. L'homme doit rester soumis comme un serviteur, comme un esclave. D'ailleurs, les mots Abdel signifient esclave de Abdelkader, Abdelkrim, Abdel, etc. C'est-à-dire esclave du grand, du tout-puissant, du miséricordieux, de l'unique, mais c'est esclave. Quatrièmement, la visite des mosquées montre les limites de l'art islamique. La virtuosité est extraordinaire, mais il n'y a rien au-delà. La virtuosité est extraordinaire, notamment dans ces mosquées qui sont ornées de miroirs qui font qu'on entre dans la lumière, pratiquement. Mais il n'y a rien d'autre. L'église arménienne de Van à Ispahan ouvre d'autres horizons. Cette église est couverte de peintures dont chacune invite à la prière. L'amour y est décliné sous tous ses aspects. Sainte Marie-Madeleine, les Saintes Femmes, les Apôtres, les Martyrs, avec, couronnant le tout, la Sainte Vierge et la Passion du Christ suivie de sa résurrection. C'est vraiment un autre monde. Le contact avec les religions de l'ancienne Perse est particulièrement instructif. Ces religions sont très minoritaires, certaines ont disparu. Elles n'ont guère été comprises par les Occidentaux, qui étaient toutes dans un panthéon plus ou moins compliqué, qu'ils soient grecs, romains, germaniques, gaulois ou autres. Hérodote s'est un peu perdu. Leur reflet dans notre littérature, que ce soit Racine, Bajazet, Voltaire, Zadig ou Nietzsche, sont à la frontière de la caricature. On confond des spiritualités qui ont fort peu de points communs les unes avec les autres. On peut en examiner trois qui me semblent caractéristiques. 5. Mani et le manichéisme. Mani vécu au IIIe siècle de notre ère, il est donc contemporain, si on peut dire. Il semble avoir été un organisateur remarquable. Il eut son heure de gloire sous un roi nommé Chafour, mais fut supplicié par son successeur en 273 de notre ère. Il prétendait être le Paraclet. Il fonda une religion qui se voulait la synthèse de l'ancienne religion des Perses, du bouddhisme et du christianisme. Le manichéisme se propagea jusqu'en Chine par la route de la soie et en Occident jusqu'en Espagne et en Afrique du Nord. À la fin du IVe siècle, saint Augustin fut pendant 9 ans l'auditeur d'une communauté manichéenne et plusieurs des leçons de saint Augustin insistent sur la réfutation de leur thèse. Le manichéisme ressurgit dans les Bogomiles et jusqu'au XIIIe siècle dans le midi de la France avec les Cathares. Le manichéisme est un syncrétisme de vérités zoroastriennes, bouddhistes, gnostiques et chrétiennes. Il reste fondé sur le conflit de la lumière et des ténèbres. Tout ce qui est relié à la matière est réputé mauvais, y compris la transmission de la vie. Nul respect de la parole donnée, ce qui fut une des causes principales de la guerre que lui mena la chevalerie. Son refus des réalités matérielles est retrouvé dans le puritanisme. Je n'irai pas jusqu'à dire le jansénisme, mais il y a un peu de ça. Sixièmement, Mitra. Initialement, Mitra était un génie de la religion zoroastre. Il avait la charge de peser les âmes dans l'au-delà. Il semble même sortir des Indes comme gardien de l'ordre aux justes ordonnances. C'est donc un culte oriental. Son culte apparaît sous Artaxerxès entre -400 et -350. Passé en Occident, probablement apporté par des légionnaires romains, il y eut une grande expansion depuis l'Europe et la Germanie jusqu'en Afrique du Nord. On ne possède aucun texte exposant sa doctrine. Le mitracisme était réservé à des sociétés d'hommes, les femmes en étaient complètement exclues. C'est une religion à mystère, reposant sur une initiation secrète, comme l'était à l'époque celle de Dionysos, de Cybèle et d'autres. Si le dieu Mitra est représenté sacrifiant un taureau, on ne sait pas avec précision si ses adeptes sacrifiaient effectivement des animaux. C'est possible, probable, sans plus. C'était une religion de militaires, mettant en avant le courage et l'honneur. Pendant 2 ou 3 siècles, le mitracisme fut considéré comme le rival du christianisme. Septièmement, le plus intéressant peut-être, Zoroastre ou Zarathoustra. Il vécut vers -100. On sait très peu de choses sur lui. On lui attribue les Avestas, texte difficile à interpréter dont on a perdu les 3/4. Il se présente comme le prophète d'Ahura Mazda, divinité bienfaisante et toute-puissante, combattue toutefois par des démons. Ahura Mazda est représenté avec une tête d'homme, la sagesse, un cercle solaire, la puissance, et des ailes d'aigle, la rapidité de la pensée. La religion zoroastrienne se résume en 3 buts, bonne pensée, bonne parole, bonne action. Beaucoup pensent que c'était là la religion des mages venus d'Orient dont parle l'Évangile et qui ont recherché le Christ. Comme l'a dit Hérodote, cette religion ne comportait ni temple ni sacrifice. Ahura Mazda est vénéré devant un feu sans que l'on puisse affirmer que Ahura Mazda soit le feu. Un des génies de la suite d'Ahura Mazda, on ne peut pas parler de déesse parce que c'est Ahura Mazda est tout puissant, était Anahita. C'est Anahita et la reine de l'eau, représentée comme une femme pure et immaculée. On ne peut s'empêcher de trouver là un pressentiment de la Vierge Immaculée. La vocation de la femme est certainement davantage dans cette direction multiséculaire que dans la femme libérée, armée d'un fouet d'une main et d'un préservatif de l'autre, de nos modernes pornocrates. En conclusion, on peut dire que toutes ces religions, qui datent de plusieurs millénaires, se donnent à réfléchir. Bien plus que les panthéons de nos autres religions, elles mettent en lumière l'aspiration vers un Dieu unique à l'origine du monde. Un Dieu que l'on sert par la fidélité, le courage, ou bien les bonnes pensées, les bonnes paroles, les bonnes actions. Donc un Dieu bon. Creusons un peu la pensée. Avec les musulmans et les juifs, nous savons que l'homme est créé par Dieu, un Dieu tout-puissant, en vue d'un bonheur qui ne finit pas. Avec les juifs, nous savons que l'homme a péché, refusant son amour, mais que Dieu a promis un sauveur. Avec les protestants, les orthodoxes et les autres chrétiens, nous savons que, chose incroyable, ce sauveur est venu sous la forme de Dieu incarné afin de nous réintégrer dans sa famille. Avec les orthodoxes, nous avons les sacrements, dont la pénitence au cours de laquelle Dieu nous prend dans ses bras pour un baiser de paix, et l'Eucharistie, mystère insondable entre tous, au cours duquel Dieu se rend présent en nous. En tant que catholiques, nous savons enfin qu'il nous a laissé un pilote infaillible pour conduire l'Église. Nous sommes donc conviés à un banquet d'une incroyable richesse. Notre devoir est de le dire à haute voix et d'inciter tous les hommes à y participer. Nous n'allons pas garder ce trésor pour nous tout seuls, ce serait d'un égoïsme invraisemblable. Certes, Pour être admis dans ce banquet, il faut revêtir la robe nuptiale. La robe nuptiale, ce sont les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Avec cette précision, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Ce qui exclut tout esprit de vengeance, fût-ce au nom d'un devoir de mémoire. Ce n'est peut-être pas très facile, mais quelle récompense! Qu'on ne parle pas de prosélytisme comme s'il s'agitait de se disputer des parts de marché. Il s'agit de proposer à ceux qui se considèrent comme esclaves d'entrer dans le salon où, comme l'a dit le Christ, vous ne serez plus serviteurs mais amis. Quelle magnifique mission! Que la Sainte Vierge nous aide à assurer ce rôle merveilleux. La prochaine fois, nous reprendrons les commandements de Dieu.